Bienvenue à la Maison des sciences de l'homme. Bienvenue dans les mondes de Fernand Braudel. J'ai l'immense plaisir d'introduire cette séance de notre traditionnelle série de livres en dialogue qui s'insère aujourd'hui, heureusement, dans un événement entièrement consacré à Fernand Braudel. J'ai suggéré ce matin, en ouvrant cet événement, que le fil qui reliait peut-être les mondes de Fernand Braudel, c'était sa propension, ou une certaine propension, une propension très forte à l'autonomie scientifique. Et je ne vois pas de meilleur exemple que les textes qui vont vous être présentés aujourd'hui. En camp de prisonnier, pour officier, où il est régulièrement amené à prononcer des conférences à ses camarades. Et il prend des notes sur des petits cahiers dont vous verrez tout de suite certaines pages s'afficher devant vous, qui sont aussi reproduites dans le livre. Donc, dans ces camps, entre 1941 et 1944, Fernand Braudel leur dit quelque chose qui semble à peine croyable. Ça m'a beaucoup frappé personnellement. C'est la première phrase du texte. « J'ai la prétention de vous expliquer le temps présent au-delà des circonstances que nous vivons, au-delà des remous qu'elles entraînent. » Voilà comment débute ce texte, la mise à distance des circonstances et des remous, que ces auditeurs doivent pourtant ressentir comme déterminant pour leur propre vie, est une trame de la façon de penser, mais aussi d'agir de Fernand Braudel. Je le cite, se dépouiller de ses passions, de ses partis pris, être délivré des espérances et des antipathies. Je voudrais replonger ces phrases dans l'actualité présente. Nous sommes très heureux ici à la Fondation que l'histoire mesure du monde paraisse aujourd'hui aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, avec une introduction de Maurice Aymard, que je voudrais encore une fois à nouveau chaleureusement salué et remercié, une préface de Sanjay Subramaniam et une postface de Christian Grataloup que je voudrais aussi, bien sûr, vivement remercier ici. Et vous me permettrez d'adresser quelques remerciements à Ingrid Allonger, qui est l'éditrice, bien sûr, Maria Vlachou, qui dirige la maison d'édition, et à Charlotte Solnitsky, attaché de presse, sans qui, finalement, cet événement n'aurait pas lieu. Nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Mauduit, que tout le monde connaît, mais dont je vais simplement rappeler qu'il est producteur et animateur de l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture, et chroniqueur d'une émission qu'il vient d'achever, je crois, de 28 minutes sur Arte. Donc c'est Xavier Mauduit qui va animer ce livre en dialogue. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation et la parole est à vous.
C'est à moi de vous remercier parce que quelle lecture, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, quelle lecture, hein. L'histoire mesure du monde, effectivement, quand nous disons Fernand Braudel, ça évoque tout de suite des choses, mais si nous creusons un petit peu, il est difficile de savoir ce que nous y plaçons. Et je trouve que c'est très important d'avoir consacré du temps et un colloque international à revenir un peu sur la figure de Fernand Braudel et surtout avec vous deux. Et vous avez expliqué l'importance qu'il y a dans l'écriture de ce livre, hein, Maurice Aymard, Christian Grataloup. Dans la lecture que l'on peut avoir de cet ouvrage, moi, ce qui m'intéresse dès le début, c'est de savoir vous, comment vous vous en êtes emparé, Maurice Aymard. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez le souvenir du moment où vous avez croisé ce texte-là ?
Oui, un souvenir très précis, puisque c'est en 1997 que dans l'un des volumes publiés sous le nom, les trois volumes publiés sous le nom des les écrits de Fernand Braudel, Madame Braudel, veuve de Fernand, avait intégré un texte que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais lu, dont j'ignorais totalement l'existence, mais l'avait intégré dans un volume complet de près de 600 pages, où il y avait aussi d'autres textes. Alors je l'ai lu à ce moment-là pour la première fois, je devais faire la préface, donc j'en ai parlé pendant 2 pages ou 2 pages et demie, il fallait parler aussi des autres articles, et ce dont je me suis rendu compte maintenant, enfin, au mois de juin, quand j'ai eu sous les yeux le cahier originel, je l'ai découvert sous un autre angle, et je l'ai lu d'une manière totalement différente. Totalement différente, d'abord puisqu'il allait être publié comme tel, mais je le voyais dans son environnement matériel, ce qui changeait beaucoup dans la lecture que j'en ai faite.
Christian Grataloup, professeur de géohistoire, Université Paris Cité. La découverte de ce texte, là aussi, c'est un moment parce que ce mot de géohistoire, il va nous accompagner tout le temps de l'échange, ça c'est une certitude.
Alors malheureusement, j'ai peu de choses originales à dire là, parce que je l'ai vraiment redécouvert. Je l'avais parcouru dans l'édition de 97, mais il ne m'avait pas outre mesure frappé, sauf la troisième partie, parce que évidemment, dès qu'il y a la genèse du mot géohistoire, évidemment, ça me concernait, ça me parlait. Mais c'est vraiment là, il y a un an et demi, quand on m'a sollicité pour participer à cette édition, que j'ai relu attentivement tout le texte, et là, j'ai été profondément frappé. J'ai même d'ailleurs ressorti un petit carnet de mon père quand il était prisonnier. Alors, il n'était pas en Oflag, lui, c'était simple Troufion. Et puis, ça a été plus douloureux pour lui. Mais c'était peu de choses. Hein. Mon père était boucher, donc il n'a pas écrit de thèse d'histoire en camp de prisonnier. Mais il y avait effectivement une dimension dans la préface Sanjay Subramanian montre bien, qui est un écrit de prison. Et ça donne une émotion à ce texte, même si on ne le savait pas, on le perçoit, cet élément-là. Donc cette vibration, mais évidemment, quand on le sait, c'est tout autre chose.
Avec les conditions d'écriture qui ont été rappelées en quelques mots, mais c'est vrai qu'on peut s'arrêter dessus, parce que ces conditions d'écriture-là sont particulière, et aujourd'hui où nous évoquons souvent des grandes figures de l'histoire, je pense à Marc Bloch, ce rappel de ce moment-là, ce moment Seconde Guerre mondiale, mais vu par ses penseurs, c'est très important. Comment Fernand Mandel en est venu à écrire ce livre-là? Parce que nous parlons d'écriture d'un livre, mais j'ai presque envie de dire que ce sont des paroles plus que des écrits.
Oui, mais ce livre, ce qui est devenu un livre, il n'avait pas été écrit au départ, c'était un ensemble de notes. Brodel, qui admirait sur ce point Henri Pirenne, quand il l'avait découvert à Alger, avait été fasciné par cet homme qui arrivait avec une carte de visite sur laquelle il y avait 5 mots écrits et tenait une conférence d'une heure sans hésiter à un seul moment. Donc l'expérience scolaire lui a permis de se perfectionner là-dessus. Et son ambition et ce qui est sa pratique réelle a été toujours ensuite d'improviser. Dans son discours de réception à l'Académie française, il s'en excuse presque en disant « C'est la deuxième ou troisième fois que je lis un texte rédigé en public. » Donc ce sont des choses qui ont été faites pour être parlées dans une improvisation devant un public bien défini. Ce qui le distingue d'autres textes qui ont été rédigés, mais qui étaient destinés à être lus dans l'intimité personnelle, enfin, face à face du lecteur et du livre, et des lecteurs qui, pour la majorité des autres livres, appartenaient à un certain milieu de spécialistes, en tout cas, d'historien plus ou moins professionnel, alors qu'il avait devant lui un public en majorité d'officiers de réserve, quelques officiers actifs, qui avaient entre 25 et la quarantaine, si vous voulez, et qui, pour leur énorme majorité, n'étaient pas du tout des intellectuels professionnels. Ils avaient un niveau d'études important, etc., etc. Ils étaient cultivés, mais ils n'étaient pas au courant de la littérature la plus avancée. Ils avaient lu Anatole France, ils n'avaient pas lu Proust, si vous voulez. pour la majeure partie. Et ce texte, on le voit, a été conçu pour faire oublier que c'était une conférence. Il s'exprime librement et il essaye d'accrocher l'attention de ce public tout à fait particulier. Alors nous avons comme ça deux souvenirs. On a ces conférences de captivité et puis on a le film des deux leçons devant des élèves de 4e ou 3e qu'il a fait à Château-Vallon six semaines avant de mourir, où là il a été extrêmement heureux. On en a fait un film au moins qui est resté. Là, nous n'avons pas l'enregistrement.
Mais vous évoquez Anatole France. Anatole France est très présent hein, dans l'histoire Mesure du monde. Absolument. Il est cité à plusieurs reprises par Brodel. Hein.
Absolument. Et on a même maintenant, j'ai réussi à identifier les conférences, le texte de plusieurs conférences, il y en a 6 ou 7 conférences faites par Brodel à San Paolo, devant un public qui n'était pas le public des étudiants ordinaires. Et la première conférence est consacrée à Anatole France.
Vedette.
De 35, hein, ah oui. dès son arrivée.
Dès son arrivée, Christian.
Alors, oui, Xavier Maudit, vous avez raison de rappeler, en évoquant aussi Marc Bloch à propos de la Seconde Guerre mondiale, qu'il arrive aux historiens d'être attrapés par l'histoire. Et en l'occurrence, les conférences, et ça explique entre autres l'ordre dans lequel elles ont été faites, montrent que Brodel a un souci, j'allais presque dire, d'essayer d'atténuer la douleur du choc de la défaite de 1940 pour ses officiers, en insistant, en relativisant tout ce qui est conjoncturel. D'où la première phrase hein, que vous avez citée. Évidemment, l'intérêt pour les structures longues, le temps long et les structures profondes de Brodel ne sont pas dus à cela, c'est beaucoup plus ancien. Mais c'est quelque chose qui explique la mise en scène inverse de l'ordre qui sera le sien, entre autres dans la Méditerranée, c'est-à-dire justement d'aborder d'abord la longue durée. Donc, de dire, voilà, il y a des phénomènes conjoncturels et cette étrange défaite de 1940, qui est inexplicable, au fond, pour ces cadres de l'armée, c'est quelque chose qui permet d'être relativisé dans la mesure où c'est situé dans une très longue durée, qui devient ensuite une réflexion épistémologique et qui devient ensuite une formalisation sur la géohistoire. Mais au départ, c'est d'abord dire, voilà, c'est comme ça. Les choses évolueront. Et d'ailleurs, des conférences de 41-42, après 42, le problème n'est plus le même, parce qu'ils vivent dans l'espoir. Après Stalingrad, les choses sont... Tout le monde a compris que les choses avaient changé. Tandis que la situation en 41, dans un no-flag, et en particulier celui de Mayence, dont on l'a sorti parce qu'il était un peu résistant, enfin pas au sens technique, c'était pas possible, mais au sens effectivement qu'il se pliait pas facilement, un monde dans lequel la propagande de Vichy était extrêmement prégnante. Et on essayait de convaincre justement ces officiers, ces cadres français, avec l'idée que s'ils étaient vraiment convaincus, ils pourraient peut-être être rapatriés, libérés. Donc, ça marchait parfois. Donc, il y avait une atmosphère qui était assez peu compatible, enfin, qui était contradictoire. Donc, si on garde ça en tête, on a assez vite une autre lecture. Et on voit une lecture qui montre que face à cette conjoncture, il y a des structures résistantes, justement. Et j'emploie volontairement le résistant, puisqu'il s'agit de Seconde Guerre mondiale.
Oui, et puis on le voit par vos textes, par la préface également, le contexte de rédaction. Et on peut se poser la question, d'ailleurs, des Allemands à ce moment-là, qui évidemment surveillent ce qui se passe, se disent, mais qui est ce type qui raconte des choses à ses compagnons d'infortune? C'est de l'histoire, ça n'a pas l'air d'être trop grave. Et ça passe pas, sans problème pour les Allemands.
Oui, d'ailleurs, les Allemands encourageaient ces activités culturelles pour que ces officiers ne s'ennuient pas, qu'ils aient une vie culturelle. Brodel a accédé à la bibliothèque de Mayence, qui était l'ancienne bibliothèque des jésuites, sécularisée à la fin du 18e siècle. Donc, ce n'était pas du tout interdit, c'était encouragé. Mais bien entendu, tout ne pouvait pas être dit de la même façon. Et c'est d'ailleurs pour ça que je nuancerai un peu ce que disait Christian Gratalou. Oui, c'est vrai, il y a le présent. Mais si ça commence en 1941, dès la fin de juin 1941, au moment de l'entrée en guerre de la Russie, Fèvre et Braudel auront la même réaction, excuse-moi de dire, ils sont foutus. Ce qui était une bonne prévision. Et de plus en plus, ce que Braudel ne peut pas dire publiquement, je ne sais pas s'il connaissait la phrase déjà, il se rallie à ce qui sera la phrase fameuse de Churchill, nous allons de défaite en défaite vers la victoire finale.
Parce que cela, dans les conférences, effectivement, il n'est pas possible que Braudel en parle, c'est inimaginable. Mais par contre, dans le mode de narration qu'il adopte, on sent ici tant d'éléments offerts à ceux qui l'écoutent. Et la forme elle-même est intéressante, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est un auditoire particulier. Le récit est important, hein, Maurice Aymard, d'ailleurs vous en parlez, le récit et le jeu, parce qu'il utilise le jeu. Et d'ailleurs, dans la lecture, c'est extrêmement agréable d'avoir cette parole, on l'entend parler. Ce jeu-là, c'est un jeu adressé, mais c'est un jeu aussi à lui-même. On sent qu'il construit sa réflexion, d'où la construction de ces différentes conférences qui forment un tout à la fin.
Mais ça, c'est une habitude qu'il a gardée jusqu'au bout. Lorsque j'ai entendu la première fois, j'étais membre de l'École française de Rome, et Braudel avait été invité en janvier 65 à faire la conférence de l'année. Et devant un public du Palais Farnèse, avec plusieurs dignitaires de l'Église, dont Mgr Tisserand, cardinal et archevêque, Braudel a parlé de la vie matérielle en disant « Je dois vous l'avouer, j'aime le luxe.
» Et il le dit.
Avec le jeu,
il y a de ça. Non, mais Christian Gratalou, c'est important de le rappeler parce que nous parlons d'un livre. Et un livre qui se lit bien, c'est toujours important. Et c'est vrai qu'il y a une lecture aisée et c'est très agréable à suivre et de voir cette construction. Et le fait qu'il y ait une temporalité différente entre ces conférences et dans des contextes légèrement différents, vous l'avez dit aussi, ça nous permet de voir, mais ça c'est le regard que l'on peut porter sur la discipline, comment il réfléchit à son objet qu'est l'histoire et l'histoire placée dans ce contexte-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'historien face à l'histoire.
Oui, alors cette fois-ci, face à la discipline historique et pas au mouvement des sociétés. C'est frappant que Braudel réfléchit à haute voix. On a ces dernières lectures qui apparaissent, donc il y a une dimension de conjoncture de ces lectures qui va venir, on peut voir ce qu'il avait lu dans les semaines qui précédaient. Mais d'abord, simplement pour une chose purement technique, j'ai été ébloui par justement le fait que ça se lise bien. Parce que combien de conférences, ça nous arrive tous souvent, faites sans notes. Je pêche aussi souvent. Mais si on les enregistre, si quelqu'un prend des notes et qu'on les restitue, bon, ben c'est douloureux. Hein, là, on se rend compte que le verbe de Braudel était un verbe très construit et très littéraire. Et d'ailleurs, effectivement, très proche de l'écriture d'Anatole France. C'est-à-dire ce système de clarté que l'on rencontre, y compris dans des phrases longues. Donc, j'admire d'ailleurs celui qui a pris des notes. Mais vous pouvez, puisque vous avez dans le livre des extraits des cahiers, vous pouvez comparer, c'est vraiment, parce que c'est très lisible en plus l'écriture qui a été utilisée, vous pouvez comparer la retranscription. Alors Braudel a retravaillé un peu, mais malgré, pas mal même, hein, évidemment. Mais on a là quelque chose qui aboutit à un vrai livre. Et un vrai livre fait de conférences diverses, prises à partir de notes, il y a un véritable exploit.
On ne sait pas qui est cet auditeur qui a pris des notes.
Mais l'un, ils ont été deux, et le Vidal, celui qu'ils appelaient le bâtonnier, a été le personnage principal. Mais on voit bien que, on voit bien que tout de même que Braudel y a travaillé davantage. D'abord parce qu'il les a fait deux fois, Et il a eu les notes sur lesquelles il a travaillé, il les a reprises, il les a jamais lues. Mais c'est tout de même un texte qu'il a mûri par ses répétitions. Et n'oubliez pas ce qu'il a entendu le dire ce matin, que Brodel avait une excellente mémoire, puisque avec ses 60 000 fiches de format 10-15 qu'il avait relues et annotées pendant le mois de juillet et d'août 1939, il a écrit La Méditerranée de mémoire, en laissant finalement dans la version finale deux fois référence exacte égarée.
Oui, c'est d'ailleurs toujours surprenant de voir cela, ces références venues d'un monde extérieur alors qu'on est dans un camp de prisonniers. Mais d'ailleurs, on peut s'arrêter sur la matérialité de ce document, parce que Maurice Aymard, vous l'avez consulté, ce manuscrit, mais plutôt ces manuscrits, parce que ça se compose de quelle manière ?
Alors, vous en avez les photos dans le livre. C'était un ensemble de petits cahiers d'écoliers. D'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore dans les origines réelles de ce texte. C'est un ensemble, il y a 7 ou 8 cahiers d'écoliers reliés ensemble, avec une reliure cartonnée, reliés à la bibliothèque du camp et portant le timbre de l'OFLAG, avec un titre qui minimise les choses. Mais, tout de même, le texte de base n'est pour l'essentiel pas de sa main, parce qu'il écrit sur la page de droite, d'abord. Le vrai texte est sur la page de droite, et la page de gauche, du cahier à livre ouvert, est celle sur laquelle Brodel a inscrit les corrections, avec le renvoi, avec des petits signes, pour que ces corrections soient intégrées dans le texte de la rédaction finale, et c'est le travail qu'a fait sa femme, Madame Brodel, pour précisément faire cette édition. Donc, on aperçoit bien que derrière, il y a tout de même tout un travail qui se fait oublier à la lecture, mais dans lequel on a tout de même un certain nombre de traces. Ce n'est pas du tout pour diminuer ses qualités d'improvisation orale.
Il faut rendre hommage aux épouses des historiens, sur toute cette époque, parce que ça serait vrai pour Madame Bloch. Effectivement, il y a tout un travail de secrétariat d'édition qui a été fait et sans lequel bien des œuvres seraient incomplètes ou auraient été inachevées.
Avec ici l'autre œuvre qu'il écrit au même moment, oui. La Méditerranée, sachant que la Méditerranée a été commencée avant la guerre, pensée, il y a ces fiches qui existent déjà, et puis il y a cet aboutissement qui conduit à l'œuvre écrite donc en même temps. Est-ce qu'on voit quelque chose ici qui fait écho à son autre œuvre, La Méditerranée, Maurice Aymard ?
À mon avis, c'est tout le contraire. Parce que sur la Méditerranée, il a cumulé la documentation pendant 12 ans. Il y a réfléchi, il en discute dans ses lettres avec Fèvre pendant la Drôle de Guerre, mais le plan n'est pas acquis. Fèvre lui conseille encore un premier chapitre, une première partie de présentation géographique, pour ensuite passer à un récit plus normal. Et nous avons ensuite la première notation qui est la fin juillet 40, si je ne me trompe pas, où Brodel écrit « J'ai commencé à écrire et ça va bien » et il va écrire 6 mois après « Mon livre est fini », ce qui n'était pas vrai. Mais le plan, c'est-à-dire l'inverse, qui peut paraître banal, de passer de la politique étrangère de Philippe II en Méditerranée à un titre complètement inversé, où la Méditerranée devient le substitut comme personnage central, comme héros du livre, Philippe II. Et Philippe II est renvoyé, c'est un des acteurs principaux, et c'est une chronologie, et tout bascule. Ils vont écrire son livre, j'allais dire, par la fin, par son point d'arrivée, parce que toutes ces fiches ces 60 000 fiches dont je vous parle, c'est ce produit de son travail quotidien, pas quotidien, enfin de son travail de 12 années tout. Il a commencé par accumuler des événements.
Les conférences, c'est une autre démarche.
Et,
Christian.
Alors oui, c'est vrai qu'on peut lire ce livre comme ce que beaucoup d'ethnologues appellent le deuxième livre. C'est-à-dire, vous avez un travail qui est fait à partir d'un travail de terrain, pour l'historien c'est un travail d'archive, et puis il y a parallèlement un ouvrage qui peut être un ouvrage plus personnel. Ça a été un peu systématisé d'ailleurs justement dans le milieu anthropologique, qui raconte un petit peu le vécu et le voyage, et c'est un livre où on dit « je ». Donc, dans une certaine mesure, il y a la réalisation d'une œuvre, et parallèlement, dans bien des cas, on a une rédaction plus personnelle, une sorte de journal de bord, dans lequel on annote les hésitations, les doutes, les possibilités qui pourraient être. Les écrivains le font rarement, mais ça arrive, hein, je pense au faux monnayeur d'André Gide et au journal des faux monnayeurs, qui est un élément symétrique dans lequel il explique effectivement tous ses choix de ce qu'est un ouvrage, un roman particulièrement novateur en son temps. Donc il y a un côté journal de la Méditerranée. Il n'en parle pas à proprement parler, il n'explique pas dans ses conférences qu'il est en train de faire sa thèse. Mais on voit bien que, justement, en particulier pour la troisième partie, qui représente plus de la moitié de l'ouvrage et qui est consacrée à la géohistoire, mais qui arrive justement à la fin, on a les débats, les hésitations sur le terme et ce que Yves Lacoste, mon collègue géographe, avait expédié juste après la mort de Brodel d'un mot en disant « il a dit géohistoire parce qu'il ne pouvait pas dire géopolitique parce que c'était un mot allemand, en fait. Hein. » Justement, il réfléchit à géopolitique par rapport à géohistoire. Aujourd'hui, on introduit la géoéconomie ou la géoastronomie. C'est quelque chose qui est un élément débattu dont on voit qu'il représente une question problématique. Ce n'est pas simplement une fabrique de mots, ce qui serait déjà important, la forge d'un concept, c'est l'élément d'hésitation et de discussion. Et il nous donne ses lectures, les positions, et effectivement, la géographie allemande joue un grand rôle. On en a évoqué, c'était la question ce matin.
Oui, parce que ça, c'est vrai que la pensée allemande, la langue allemande, les sciences allemande, c'est aussi une référence à ce moment-là. Ça participe à cette réflexion qu'on peut avoir parce que, faut le rappeler, ce texte est écrit dans un camp de prisonniers. Et ça apparaît aussi.
Effectivement, les intellectuels français étaient pris en porte-à-faux en 1940. Parce que, et il l'avait été déjà en 1870, hein, parce que dans les réflexions dans les sciences, et pas que dans les sciences de société, mais en histoire évidemment, en sociologie, c'est particulièrement net, mais c'est vrai aussi en biologie, hein, si on pense Pasteur et Cor, il y a une concurrence. Enfin, ça se vit, on parlait ce matin des écoles nationales, ça se vit comme un challenge. Les Anglais sont un peu ailleurs dans cette affaire. Les Américains ne sont pas encore arrivés. Mais les autres, Italiens, etc., c'est secondaire. Mais c'est une affaire entre la pensée issue des Lumières françaises, qui se revendique d'Athènes, et la vision allemande, qui serait plus romantique. Voilà, c'est des caricatures qui vont ensuite s'incarner. Et ce débat fait d'abord que tous les intellectuels français, en particulier en sciences sociales, ils lisent l'allemand. Ils font d'ailleurs souvent un voyage d'Allemagne. Mon grand-père fondateur, Paul Vidal de la Blache, n'a pas fait exception à ça. Il y a des carnets avec des croquis, justement, parce qu'il est géographe, de l'Allemagne. Donc, on a là quelque chose qui est de se positionner par rapport à cette pensée. Alors, la réciproque est vraie, d'ailleurs. Mais en 1940, ça pose problème. Exactement comme après 1870, certains intellectuels français s'étaient un peu interdits de ces références et avait voulu construire, et la géographie française y participait à ce phénomène, quelque chose face à l'hérite, ce que l'Allemagne avait, semble-t-il, mieux développé, eh bien, en 1940, sous cet apport allemand, il faut se repositionner, reconstruire. Et il y a eu toute une partie de cette démarche, et de ce fait, l'accès à la bibliothèque de Mayence avait été essentiel.
Là, je nuancerai un peu votre point de vue. Parce qu'en fait, c'est vrai, il y a eu ces réactions nationalistes après 70. Mais les mêmes, les fondateurs de la revue historique, jusqu'à Marc Bloch, je dirais, et jusqu'à Sartre pendant l'entre-deux-guerres, vont tous passer un an, deux ans en Allemagne. Parce qu'il est admis que l'allemand est la langue internationale de l'histoire et de la philosophie. L'histoire étant liée très fortement à la philosophie. Alors, la compétition, bon, elle va s'affirmer, il y aura des écoles nationales, mais même les annales, quand elles sont fondées en 1929, c'est une réponse et une volonté de concurrencer et d'imiter les Viertelier Schrift für Social und Wirtschaftsgeschichte, qui datent de 1905 ou 1904, qui ont ce temps d'avance. Il faut que la France rattrape ce retard et le rattrape à partir de l'université de Strasbourg, qui a été, avec la Bibliothèque nationale universitaire, la seule qui existe sous ce nom en France, a été dessinée. On a envoyé des jeunes chercheurs brillants ayant un avenir enseigner là. Il s'agit de renverser, retourner l'influence et de conquérir intellectuellement l'Allemagne. D'où la surprise, effectivement, de 1940.
Oui, et puis il y a cette idée de vouloir faire bouger les choses apparaît nettement dans ces conférences. On le voit bien parce que le chapitre premier, trois définitions, l'événement, le hasard, le social. Et Braudel écrit « L'histoire que j'invoque est une histoire neuve, impérialiste et même révolutionnaire, capable pour se renouveler et s'achever de mettre à sac les richesses des autres sciences sociales, ses voisines, etc. » Donc, il y a ici, il faut rappeler, hein, c'est un public particulier, on est dans un camp de prisonniers et il y a un verbe qui est là et qui nous emporte, mais un objectif qui est clairement affirmé aussi. D'ailleurs, c'est toujours très intéressant hein, d'imaginer ces soldats, officiers, entendre ça, ils se disent, parce qu'ils n'ont sans doute pas toutes les clés dont pouvait disposer Braudel sur ces différentes écoles. Mais il y a quand même, on le sent bien ici, un objectif destiné à être verbalisé pour des gens, mais en même temps, c'est formidable de l'entendre, j'imagine, se le dire à lui-même, parce qu'il pense, il réfléchit. C'est là aussi toujours le jeu, à qui s'adresse-t-il, aux gens ou à lui-même?
Mais il s'agit de leur vendre sa marchandise à lui, en le disant, c'est vraiment du neuf.
Oui, c'est ça, c'est vraiment du neuf, avec ces trois mots associés dans le chapitre premier, l'événement, le hasard, le social. Alors l'événement, nous le saisissons, le social... Aujourd'hui, nous le saisissons, même s'il y a besoin, je vous vois, Christian, toujours de précision. Mais le hasard, que vient-il faire dans cette histoire-là? C'est étonnant hein, de voir paraître le mot de hasard. Et là aussi, ça nous permet de réfléchir à la science historique elle-même.
Hein. Allez, Maurice, Christian. Je répondrai après.
Je voudrais intervenir d'ailleurs comme géographe ensuite. Mais effectivement... je dis comme géographe parce que on l'a évoqué ce matin, ce que Braudel attribue beaucoup à la géographie, un peu par provocation, c'est le déterminisme. Demander au déterministe, que je suis donc, je vais le nuancer dans un instant, déterministe, de définir le hasard, enfin de voir pourquoi le hasard, c'était une manière de dire l'événement. Il faut introduire ce qui est imprévisible, ou qui est possible, certes, mais qui n'était pas sûr. Cette dimension-là, qui participe à ce que j'évoquais sur la relativisation des temps difficiles que nous vivons, enfin, en 1941, c'était sans doute, effectivement, pourquoi ce mot « hasard », qui, par ailleurs, n'est pas très présent dans le reste des textes de Braudel, hein, là où il l'a mis en avant. Là où le géographe se ressent un peu acculé, c'est justement au tout début de la troisième partie. Le titre de le premier chapitre de la troisième partie, c'est « La géographie, science inachevée ». Et il précise même un tout petit peu plus loin dans le texte « terriblement inachevée, les géographes le savent bien ». Donc, en tant qu'inachevée, c'est un peu surprenant d'être à la fois inachevé et déterministe. on a là quelque chose qui est une réutilisation, mais liée au fait que Braudel limite, comme c'est normal, et comme Fèvre l'avait fait en 1922 dans la Terre et l'évolution humaine, la géographie au milieu. Fondamentalement, c'est ça. Ce que, d'ailleurs, dans le langage courant, on appelle les conditions géographiques. Donc, cet élément clé, il évoluera ensuite, mais dans la Méditerranée, c'est d'abord ça. Cette limitation au milieu fait effectivement que le hasard, il n'apparaît pas. Donc, la longue durée apparaît à la fin, parce que, justement, ce n'est pas le domaine du hasard.
Oui, c'est ça, Maurice Aymard.
Oui, mais en même temps, comme toujours, ce que je vois, les événements, il y a tout le débat. Il y a des événements, il y en a tous les jours, lesquels sont notables, lesquels ont été notés. Et finalement, les événements réellement importants sont ceux auxquels on a accordé le moins d'importance quand ils sont produits. Donc, la fin est toujours une surprise. Mais l'argument du hasard, appuyé sur l'exemple de son maître antiquisant Hollo, c'est de faire sauter l'argument en faveur de l'événement selon lequel un événement en entraînerait un autre. Donc il y aurait une causalité que l'historien pourrait expliquer. On disait, ça s'est produit, ça a eu pour conséquence ceci, etc., etc. Une conséquence tout le contraire. Donc comme ça, on se débarrasse totalement des événements. Les événements sont importants pour produire dans une première étape un récit, parce que sans récit, on n'intéresse personne. Aussi bien des personnes cultivées de 35-40 ans que des enfants de classe de 4e ou 3e. Il faut partir d'un récit. Ça sera sa théorie, d'ailleurs, sur l'enseignement de l'histoire dans les écoles.
Oui, c'est ça, c'est du récit. Le récit, il est clairement porté ici. Et puis, une volonté, et la volonté, c'est de voir grand. Et on le perçoit vraiment dans ce qu'il dit, le voir grand, c'est quelque chose là qui conduit. Alors, ça correspond bien à ce que vous disiez tout à l'heure, Maurice Aymard, parce qu'il vend sa démarche. Et donc, ça donne envie. Il y a une forme d'enthousiasme, je trouve, dans ses écrits, ici, dans ses conférences. C'est allons-y, quoi. Il y a un travail gigantesque à accomplir.
Ah oui, parce que dans une certaine mesure, je dirais que dans cette prison, il était libre. Parce qu'il aurait été dans un contexte universitaire, il aurait eu des marges de manœuvre différentes et probablement, par certains côtés, beaucoup plus restreintes. Donc, il pouvait se lancer dans de grandes envolées, tester des hypothèses de grande taille, car réfléchir dans l'historiographie des années 40 à une dimension mondiale, c'est déjà... nous aurons demain la discussion sur l'histoire globale, mais c'est toujours difficile aujourd'hui. En 1940, ce n'était pas vraiment le cadre historiographique de base. Il y a toujours, et il y avait encore plus il y a 80 ans, une résistance face à cette échelle. Donc, penser monde, c'est vraiment quelque chose dont il pouvait se libérer, alors qu'il aurait pris une foule de précautions s'il avait été devant ses pairs en 1938 ou 39 pour aborder ce genre de questions. D'ailleurs, et quand il faisait un cours, c'était toujours à une échelle beaucoup plus restreinte.
Oui, mais en même temps, effectivement, il faut que l'espèce de foi dans l'avenir qui le porte, il est vraiment au fond de lui-même. Et il faut être convaincant. Et pour ça, il joue son rôle, qui correspond assez bien. Il y a un livre dont j'ai perdu la référence, qui est un livre sur l'histoire de son naufrague, où ils étaient quatre intellectuels à avoir une influence et à faire des conférences à l'usage des prisonniers. Il y a même donc une forme de compétition entre eux pour savoir celui qui aura le plus d'audience et va apporter aux bénéficiaires le plus de réussite, le plus de réussite dans son discours.
Mais ce que vous venez de dire là, c'est aussi la force de ce texte. C'est-à-dire qu'un texte écrit par un historien, sachant qu'il va être jugé par ses pairs, n'a pas la même forme qu'un texte écrit dans le cadre de conférences, dans un camp de prisonniers, qui en soi n'est pas destiné à être publié. Et c'est vrai que ça donne une certaine liberté de ton. Alors, de ton peut-être dans la narration, dans la forme, mais aussi dans la pensée. On peut pousser un petit peu plus loin parfois sur des marges qu'il n'aurait peut-être pas exploitées pour ne pas recevoir des critiques. On peut imaginer que c'est la spécificité ici de l'histoire, mesure du monde, conférence de captivité, conférence avec un S, donc il y en a plusieurs. Parce que c'est aussi cette réflexion à replacer dans l'œuvre de Brodel. Il y a une spécificité sur cet écrit quand même.
Alors, les spécificités, on n'a que la moitié du texte prévu. La première moitié, qui est la plus importante d'après ce qu'il dit, l'autre moitié est perdue et a peu de chances d'être retrouvée. C'est aussi celle sur laquelle il a le plus travaillé, qui représente pour lui l'essentiel, puisque c'est le modèle, c'est d'essayer de convaincre son public, c'est que l'histoire, c'est tout autre chose que ce qu'ils ont, ce public a lu à l'école, ou lit dans les journaux, ou entend à la radio. Alors effectivement, comme ils écoutent Radio Londres d'un côté sur des appareils de radio clandestins, et sont inondés par la presse vichysoise et par la presse allemande, ils ont de quoi faire du travail critique au quotidien.
Oui, c'est ça, parce qu'ils peuvent appliquer ces réflexions-là. Et c'est d'ailleurs pour ça une lecture plaisante, parce que c'est clairement dit de la part de Brodel, ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école. Et ici, on se dit que pour le public, mais quelle chance! Parce qu'ils ont été, sans le vouloir, sans le savoir peut-être, au plus près d'une pensée vive sur la science historique. Et ça a un écho avec aujourd'hui encore, parce que toujours la question de la pertinence au moment où nous lisons aujourd'hui un texte. Et ça garde cette fraîcheur et cette vigueur-là. Hein.
Alors oui, parce qu'il aurait été facile pour un historien de faire du récit qui aurait captivé pour... il aurait fait, dans ma génération, je veux dire, Alain Decaux raconte. Donc, il aurait raconté la bataille de Lépante, les mésaventures de Philippe II. On pouvait imaginer plein de narrations, ou même la vie des paysans ou des navigateurs au XVIe siècle en Méditerranée. Il aurait certainement captivé, car il faut bien sûr se souvenir derrière, car les conférences ou les cours qu'il a pu donner ultérieurement, il était passionnant, c'était un grand orateur. Donc, il l'était à ce moment-là. Donc, il avait une liberté, mais il aurait pu garder ce public et s'amuser à faire des récits sans aucune difficulté. Et c'est absolument pas ce qu'il fait. Il en fait essentiellement de l'épistémologie, de l'historiographie, des débats intellectuels, et il le fait à sa manière, mais on voit qu'il réussit à les faire passer. Mais c'était gonflé. Parce que, a priori, on pouvait facilement imaginer que la majorité des officiers qu'il avait devant lui, qui étaient médecins, commerçants dans la vie quotidienne, ça ne leur disait pas grand-chose et il y avait peu de chances que les débats historiographiques allaient leur parler directement. Eh bien non, il a réussi et en même temps, ça lui permettait de penser haute voix, comme on l'a dit tout à l'heure.
Avec Maurice Aymard, on le sent bien ici, des idées avancées, simples au sens où il les exprime simplement, mais complexes par leur portée. L'espace, le temps, les sciences sociales qui se font écho les unes les autres. Aujourd'hui, il faudrait d'ailleurs se méfier de ça, ce qui nous paraît être une évidence. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut sans cesse rappeler les choses, relire ces écrits-là. Mais c'est vrai que juste avancer ces idées, c'est extrêmement éclairant. Il le fait simplement.
Alors, là, tout à fait d'accord avec vous, parce que ces textes d'histoire traditionnelle, le récit de la bataille de Lépante, il l'a fait de façon extraordinaire à Venise en 71, pour le XVIe centenaire de la bataille, extraordinaire. Alors, avec un personnage de Don Juan qui a voulu la bataille, sans lui, elle n'aurait pas eu lieu. Une partie de la flotte chrétienne voulait rentrer chez elle en disant il est trop tard, on est au début d'octobre et on va trouver le mauvais temps en rentrant. Il a fait deux biographies que vous trouverez dans les écrits, celle de Charles Quint et celle de Philippe II, fabuleux. les quatre pages sur la mort de Philippe II, qui va s'échelonner sur deux ou trois mois de réveil, d'agonie, etc., etc., sont absolument bouleversantes. Mais, en fait, pour moi, le livre est particulièrement important. Ce n'est pas la géo-histoire qui m'intéresse le plus. Je dirais c'est la fin.
Désolé.
Non, ce n'est pas la discussion qui est un peu théorique et qui, pour moi, n'a jamais eu grand sens. Parce que chacun sait que nous vivons dans un monde où vous avez des chemins de fer, des routes, etc. etc. Et pour aller de tel endroit à tel endroit, vous prenez la route. On a appris de la Méditerranée que c'était un monde où pour aller d'un bout à l'autre, il fallait 40 ou 60 jours. Mais les catégories du possible et l'impossible qui rythment nos vies quotidiennes, il va les proposer seulement dans civilisation matérielle et capitaliste. Alors, ce qui est important pour moi, c'est tout de même tout ce qu'il nous propose comme résultat de ces lectures majoritairement allemandes, c'est-à-dire tout ce qu'il a identifié comme piste de recherche nouvelle, que ce soit, commençons par l'histoire du climat qu'il découvre là, et qui va introduire dans la Méditerranée, avec une mention importante, l'histoire du climat est-elle possible, c'est-à-dire une histoire qui soit réellement scientifique, avec des séries météorologiques plus grandes, plus longues et fiables, et non pas un simple récit d'événements, d'inondations, de tempêtes, etc., etc. C'est tout le programme que va réaliser en France le roi Ladurie, dans un contexte en train de se mondialiser aussi, et où on peut remonter maintenant à l'an zéro et entamer même la recherche sur le premier millénaire avant, grâce à de véritables sources. Je pense aussi à l'histoire de l'environnement lui-même, aux modifications géologiques et autres, donc toutes choses qu'il a découvertes en Allemagne, y compris les premiers villages néolithiques, c'est-à-dire une histoire qui remonte à moins 7000 ans, à moins 8000 ans par rapport à nous.
Avec ce temps, évidemment, et on le sait bien hein, pour Braudel, la notion du temps qui souvent résumée en temps court, en temps long, etc. Mais on voit bien ici cette complexité parce que d'autres concepts doivent entrer en ligne de compte, tel l'espace et pourquoi pas la géohistoire. Parce que ça, c'est le troisième chapitre, Christian Grataloup, la géohistoire. Donc, c'est l'invention du mot ou en tout cas, c'est parmi... Alors, il y a une lettre aussi dans laquelle ce mot apparaît. Quelle place a ce texte Histoire, mesure du monde dans la géohistoire qui, alors... aujourd'hui n'est pas la même chose qu'au moment où le mot est inventé, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'histoire même du concept.
Oui, je vais pas me lancer dans l'histoire du mot géo-histoire.
Bah non, parce que c'est la postface.
C'est ce que j'ai écrit dans la postface.
Très bien écrit.
Juste, je l'ai d'ailleurs évoqué ce matin pour dire qu'aujourd'hui, on a une nouvelle géo-histoire qui apparaît avec Dora Haraway et Bruno Latour, qui est en gros Gaïa, enfin, qui est une vision géo signifiant notre environnement. Donc on a un tout autre mot qui est pourtant apparu en anglais et en français. Je suis pas sûr qu'ils prennent d'ailleurs, donc la concurrence n'est pas trop grande. Donc, laissons ça. Inversement, le terme qui a migré en gros du champ de l'historiographie à celui de la géographie, c'est quelque chose, comme Marie-Vic Wouzout l'a évoqué ce matin, c'est quelque chose qui, effectivement, est intéressant parce que ce qui est plutôt l'oubli des historiens, comme on dit, finalement, ça ne vous intéresse pas. Finalement, on a ramassé le mot des géographes en tout cas pour l'utiliser et pour s'en servir et essayer d'en faire un outil. Je pense pas qu'on s'en plaigne d'ailleurs parce qu'il nous permet d'être ensemble justement. Donc pour Braudel, on voit bien que là il y a un moment où il y a un test et que ce test il le fait dans des choses qui sont quasi privées. Là, on a évoqué, il est dans une lettre à Lucien Febvre, il est dans des conférences qui n'ont pas du tout destination à publication. Mais ensuite, grâce à ces tests, il va pouvoir en faire un mot clé à l'intérieur de la Méditerranée, qui finalement il abandonnera. On a là justement des jeux par essai, utilisation et puis abandon. C'est tout à fait amusant hein, de voir ce processus. Mais,
oui, mais abandon pour autre chose.
Oui.
Puisque le point d'arrivée, l'étape suivante, c'est tout de même le grand article sur la longue durée, écrit en 58. Brodel, à la fin de 56, hérite de tous les pouvoirs qu'avait eu Lucien Febvre. Il avait déjà le Collège de France, il a la présidence de la 6e section, il a la direction des annales. Et l'article sur la longue durée, c'est son discours programme pour son institution. Parce qu'oubliez pas, dans son œuvre, on n'a pas parlé, mais la construction de l'institution a aussi une étape, parce que toutes les propositions sont théoriques si on ne peut pas les mettre en pratique et les réaliser. Et il est intéressant que pour le voir que dans l'article sur la longue durée, qui est l'article le plus cité, traduit dans toutes les langues du monde, et je le dis toujours, le plus cité, mais le moins lu, parce que plus on cite, moins on éprouve le besoin de lire, comme si c'était une évidence. Il définit comme trois disciplines centrales dans les sciences humaines et sociales, pour une politique, c'est les mathématiques pour la formalisation, c'est l'histoire pour le temps, et c'est la géographie pour l'espace. Et à ce moment-là, parlant de géographie, il a une espèce de repentir, la géographie, ou on peut dire l'écologie.
Oui, parce que c'est cette évocation aussi...
Oui, en 58. Hein,
voilà, parce que 58, il y a cette évolution de la pensée. Hein. Là, nous sommes au moment de la Seconde Guerre mondiale, et puis après, il y a la portée. D'ailleurs, Maurice Aymard, Brodel, vous l'avez fréquenté, vous avez suivi cette pensée. Est-ce qu'il a déjà évoqué l'existence de ce texte auparavant?
Jamais. Je vous dis en commençant, j'en ignorais l'existence. Et... ce qui me pose, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui le sait, mais qui ne m'a pas dit, qui est Peter Schoettler. Il m'a dit un jour, ce texte est arrivé d'Allemagne, via Berlin. Alors que je pouvais croire que Brodel avait rapporté dans sa mallette, au pactage, ce livre, ou pas. Madame Brodel dit, si le livre était à la maison, c'est bizarre, mais dans la présentation qu'elle en donne, elle ne dit rien. Il a été retrouvé il y a quelque temps, on ne sait pas comment ce manuscrit est arrivé entre ses mains. Elle ne nous dit pas un mot de plus. Mais enfin, c'est tout de même rassurant pour nous de la voir.
Mais vous avez tout à fait raison.
J'ai bien quelque chose qu'elle n'a pas inventé. On sait que la matérialité du manuscrit change la lecture qu'on peut en avoir.
Est-ce que vous pensez que Brodel aurait pu le jeter?
Non.
Non, il aurait gardé soigneusement.
Non. Brodel a jeté systématiquement toujours tous ses brouillons.
Oui, c'est ça.
Les versions intermédiaires. Intermédiaire, alors il avait cette phrase formidable qui est de dire « Si tu corriges, tu rends les choses plus compliquées. Si tu réécris, tu simplifies. Et donc, tu es beaucoup plus convaincant pour ton lecteur. » Et les grands textes qu'il a écrits ont été réécrits 5, 6, 7 fois. Pour une préface ou je ne sais quoi, elles auraient été écrites 2 ou 3 fois. Mais toujours, il réécrivait.
Et les brouillons disparaissaient.
Oui, donc s'il ne le considérait pas comme un brouillon, c'est que c'était une œuvre autonome.
On les avait derrière soi, et c'était pas un point sur lequel s'appuyer, il fallait passer à l'étape suivante.
Christian Grataloup, pourquoi avoir choisi, au moment d'écrire la postface, de s'intéresser à ce moment, Château-Vallon, 1985? Parce que là, on est sur un moment particulier en plus. Et d'ailleurs, ça fait écho aux idées qui sont évoquées dans l'histoire, mesure du monde, sur la géohistoire. C'est-à-dire qu'on est dans un autre temps, on est quelques mois avant la mort de Brodel.
Bon, je vais presque être ironique, mais Maurice a évoqué les étapes de construction de l'Empire Brodel. avec le Collège de France, avec la sixième section devenue les hautes études, avec la matérialisation dans ce bâtiment et tout ce qu'il a su faire comme construction en captant des fonds. C'était un grand... Il savait obtenir des fonds, et particulièrement des fonds venus des États-Unis, en réussissant à obtenir le terrain de l'ancienne prison du Cherche-Midi. Enfin, c'était effectivement quelqu'un qui a vraiment construit un empire. Et ce grand mandarin, si je peux permettre, a régné sur son empire. L'empereur. De la... En même temps, semble-t-il, en tout cas c'est le témoignage de Georges Duby, il a toujours... eu cette blessure de l'échec à la Sorbonne. Ah, c'est un élément important. Donc, et Château-Vallon, c'est le point d'aboutissement. Et là, on n'est plus dans le règne de l'empereur, on est dans la canonisation. Hein. C'est au tour de Braudel, qui vient de rentrer à l'Académie française, quelque chose où des gens qui lui sont proches vont pouvoir disséquer son œuvre, parler de son œuvre, et il intervient avec toutes les provocations qu'il veut, et il continue d'ailleurs sur les géographes avec cette phrase qu'on a évoquée tout à l'heure, si la géographie n'est pas déterministe, je ne sais pas ce qu'est la géographie. Donc on a cela, et Château-Vallon, de ce point de vue-là, a été particulièrement mal vécu par les géographes, mais... C'était une boutade. Hein. C'est quelque chose que je ne pouvais pas ne pas évoquer. Mais j'ai préféré commencer le texte de la postface par cette phrase qu'il avait entendue à ce qu'il avait subi, puisqu'il était en position dominée, si j'ose dire, puisqu'il était... candidat, enfin il soutenait son doctorat. C'est une situation que beaucoup de gens ici ont connue. Pour beaucoup, c'est lointain, mais enfin, en se souvenant combien on est un peu dans ses petits souliers, même Braudel ne s'était pas gagné, puisque justement, il y avait cet enjeu de la Sorbonne. Et c'est Gaston Zeller, qui était membre de son jury, qui va justement lui ravir la place à la Sorbonne, Gaston Zeller qui lui dit « Vous êtes géographe, permettez-moi d'être historien ». Donc le qualifier de géographe n'était pas forcément flatteur.
Clairement pas flatteur, on l'entend bien avec la publication aujourd'hui de l'Histoire mesure du monde. C'est une nouvelle édition revisitée d'un ouvrage qui ne participe pas simplement d'un écrit rare d'un grand historien ou géographe comme on veut.
Yves Lacoste a écrit un texte justement en 86 dans un livre d'hommage, Braudel géographe.
Voilà, donc c'est un hommage. Non mais c'est aussi l'actualité du propos.
Oui, juste deux mots pour un sur Château-Vallon. Château-Vallon, c'était un événement, mais personne ne savait que Braudel allait mourir 6 semaines plus tard. Personne ne savait, il avait caché qu'il était malade. Bon, la grande surprise. Mais c'était un très beau cadeau, parce qu'il y a un aspect canonisation. Mais les deux choses qui certainement lui ont plu également, ça a été ses cours, ses 2 heures de cours devant des élèves de 4e d'un collège de la banlieue de Toulon. Il a enseigné à des gamins, il leur a raconté une histoire, celle... du siège de Toulon, non pas celui que nous connaissions tous, celui de Bonaparte en 1793, mais un épisode de la guerre de la succession d'Espagne où les paysans l'avaient emporté et avaient fait reculer l'armée régulière qui envahissait la France. Mais il y a eu une troisième étape dont on ne parle jamais, ça a été une réception au poste de commandement de la flotte française en Méditerranée à Toulon. Imaginez une salle de cette importance avec peut-être deux fois plus de hauteur et un grand panneau avec la carte de la Méditerranée et la position de tous les bateaux de guerre en Méditerranée et de tous les camps. Hein. Et puis de temps en temps apparaissait un marin qui déplaçait un bateau. On avait véritablement une carte dont Braudel aurait vraiment rêvé pour la Méditerranée du XVIe siècle. Alors ces trois choses réunies lui ont fait énormément de plaisir. Mais j'insiste sur les deux choses apparemment mineures. Évidemment, il y a eu le sacre, mais qui s'est n'était pas forcément la chose la plus importante.
Non, mais c'est une approche en tout cas très intéressante avec ce livre de la pensée de Fernand Braudel. On l'entend bien parce que c'est contextualisé par vos textes et par la préface également. Et c'est important aussi, hein, bah oui, cette préface-là. Juste d'ailleurs, la préface, vous savez, tous les ouvrages ont un écho à l'actualité, mais la première ligne du livre, c'est « Hier comme aujourd'hui, nombre d'auteurs ont su mettre à profit leur période de captivité pour écrire. » Pas sûr que tous les ouvrages de prisonniers auront la même portée. En tout cas, je voudrais terminer par les derniers mots du livre, parce que comme vous faites la post-faste, Christian, c'est vous qui les écrivez. Eh bien oui, non, mais c'est un point d'exclamation qui suit « Merci Fernand ». Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est « Merci par la vivacité de cette pensée ». Et moi, je rajoute « Merci ». À vous, par vos textes, de recontextualiser l'ensemble.
Si je peux juste ajouter un mot, parce que la chose a été bien repérée par Sanjay dans sa préface, et moi dans le texte que j'ai écrit, lorsque Braudel fait sa leçon inaugurale au Collège de France. Ce n'est pas sur la Méditerranée que cette leçon du Collège de France va être construite. Ça va être précisément sur ce texte-là, où l'essentiel des propositions de l'histoire qu'il va s'efforcer de développer, sur lequel de développer pendant son séjour, ses leçons au Collège de France, c'est à 90% ce livre-là. Ce qui n'est pas mal, que des conférences de captivité faites reprises deux fois dans des oflags allemands se retrouvent être la base d'un programme d'enseignement pour 15 ans d'un professeur au Collège de France, c'est pas mal.
Oui, c'est marrant, vous êtes très bon en conclusion. Hein. Et en argument de vente aussi. Moi, je rajoute sublime édition. Non, mais c'est vrai, parce que c'est une très belle édition. C'est 10 euros en plus. Non, mais c'est pas cher. Non, mais vraiment, allons jusqu'au bout de l'argument de vente. Et merci vraiment vivement à tous les deux de ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci à vous. Il va y avoir des micros qui vont circuler si vous avez des questions. N'hésitez pas, profitez-en.
Ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. J'ai appris ça hier. Parmi les co-détenus de Fernand Braudel, il y avait Yves Congar, le grand théologien, et Jean Godemet, le grand historien du droit. Donc voilà, il y avait des gens d'une qualité extraordinaire. Et donc je me demande s'il y a des conférences de ces deux autres, je ne sais pas quel était le troisième, le quatrième grand intellectuel qui était là, mais c'était des gens d'une très très haute tenue intellectuelle. Donc la rivalité entre les conférences est intéressante, et ça serait bon de savoir s'il y a eu d'autres conférences publiées. Merci.
Je crois qu'ils ont fait des conférences, mais je crois que le rapport personnel le plus étroit a été avec Yves Congar.
Oui, bonsoir. Merci pour ces présentations. Il y avait une question qui me trottait déjà ce matin. Vous avez une expression très « je fais ci, j'ai fait ça, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai pensé ». Et ça, je trouve que c'est vraiment une attitude très probe et très honnête de la part de Braudel. Et je voulais savoir s'il n'avait pas eu, quand il disait « je », en camp de concentration, ou ce qui ressemble à un camp de concentration, il ne faut pas exagérer, le nom est un peu exagéré, j'en conviens. Est-ce qu'il n'avait pas eu la vocation de faire, comme font certains avocats, qui lors d'une plaidoirie se mettent tout d'un coup à dire « j'ai vécu comme ça, j'ai fait ça ». Ils se mettent à la place du système général, de leurs patients, qui patientent, pour être condamnés ou être acquittés, et ça donne une plus grande force à la vie du moment et à la vie des gens. Merci.
Ce « je » correspond à son type d'éloquence, qui n'était pas l'éloquence d'un tribun. C'était quelqu'un qui transformait, qui donnait à ses interventions comme celle-là, l'apparence d'une causerie toute simple qui coulait de force, qui coulait de source, et qui était parsemée de formules heureuses qui faisaient rire le public, etc., etc., donc qui mobilisait l'attention. Donc le jeu, je ne veux pas faire des souvenirs, il était finalement très courant dans sa façon de s'exprimer, et il faisait oublier qu'il parlait en public.
Bon, merci, c'est vraiment félicitations pour cette publication. Je fais une demande plus un peu pour moi, mais aussi liée au sujet des panels de demain. Évidemment, c'est un livre que je connais bien et je vais en parler un peu demain aussi. Mais ce qui me frappe, et je pense que ça c'est intéressant ce que Maurice a dit sur les conférences, que c'est une espèce de prélude à ce qu'il dirait plus tard, plus développé au Collège de France, mais aussi pour voir ce Braudel pendant les années 40, on disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il lisait, qu'est-ce qu'il pensait, et ça, on sait bien ce qu'il lisait parce que c'est dans sa tête, mais aussi des gens qu'il connaissait, et on parle de la géohistoire. J'ai relisé les notes au bas de la page, et tous les géographes qu'on cite, c'est pas que qu'ils les connaissaient théoriquement, qu'ils les lisaient de Mongeon, de Fontaine, de Martin. Ils étaient tous au Brésil aussi avec lui. Du coup, c'était des gens qu'ils connaissaient. Ils connaissaient à Paris, ils connaissaient au Brésil. Et ça, c'est quelque chose de très important. On n'en a pas parlé suffisamment, mais je pense que Iris et d'autres, demain, on parlera. Mais ça, c'est vraiment une bonne opportunité de connaître son élargissement géographique pendant ce moment avant qu'il rédige effectivement la Méditerranée. Bon, je vous en remercie.
Non, mais c'est une histoire sociale au sens où ce sont des gens qui se connaissent.
Qui ne connaissent pas tous, au total, dans la vie de Braudel. Le moment où il va connaître du monde, c'est dans les cérémonies du centenaire de la prise d'Alger, en 1930, parce que là on fait défiler tout un ensemble de grands noms, et c'est là que c'est là que commence cette admiration pour Pirenne. Mais au total, bon, il y avait un milieu de professeurs de bonne qualité à l'université, lui était en dehors du lycée chargé de cours et fréquentait ce milieu. Là, ce n'était pas un milieu absolument extraordinaire. Il est resté très lié avec des gens comme Bataillon, par exemple, des amitiés qui l'ont accompagné toute sa vie. Mais au total, il a enseigné au lycée à Paris, bon, où il a fréquenté le milieu universitaire, qui n'avait pas les dimensions du milieu universitaire actuel. Mais il n'avait pas de... Bon, par exemple, Fèvre, il l'avait croisé une fois. Et s'il n'avait pas, là c'est le hasard, s'il n'avait pas pris le même bateau que lui en septembre, le 20 septembre, début d'octobre 1937, Lucien Febvre était monté sur le bateau, sur le bateau en Argentine, et les Braudel sont montés à Santos sur le même bateau. Et s'ils n'avaient pas passé 10 ou 15 jours ensemble pour la durée du voyage, et si ce n'était pas connu, de la façon dont ils se sont connus, et s'il n'était pas né ce qui va devenir et qu'on voit se préciser dans l'extraordinaire correspondance qu'il entretient avec Fèvre pendant ces périodes de captivité, sans cette amitié, rien ne se serait passé. Et ce qu'il admirait, et là, vous avez eu raison de le dire, il a su trouver les fonds, les bâtiments. Mais il a toujours su parier sur des personnes. Fèvre avait parié sur lui. Bloch était méfiant. Il l'appréciait pas beaucoup, mais il a parié sur lui. Et dans sa vie ultérieure, Braudel a parié sur Bertin, même c'est pas lui qui a fait le choix, mais il a parié sur Le Goff, il a parié sur Furet, etc., etc.
Sur tout. Hein?
Non, sur Maurice Sénard.
J'arrivais beaucoup plus tard. Mais c'est dans la génération qui a eu 20 ans en 44-45, il a tout de même pas mal choisi. Et il a assuré la continuité de l'institution.
Est-il une autre question ? avant que je vous dise que le livre est en vente juste ici. Que vous n'aurez pas... Oui, il y a une autre question. Voilà.
Non, je voulais revenir sur... C'est pas de l'ordre de l'anecdote, mais c'est par rapport à ce que vous disiez sur à la fois... Vous avez souligné, il avait un côté mandarin et un côté très institutionnel, créer des institutions. Et moi, je me souviens, parce que j'ai travaillé avec Marc Ferraud, comment il pouvait aussi, au sortir de la guerre, mettre dans des positions des personnes qui étaient quasiment aussi hors institution. Marc était devenu secrétaire des Annales, je crois, en 61, alors qu'il avait Nina Gregg, il ne sortait pas de Normal Sup. Il avait aussi, à la 6e section, appointé Roland Barthes, qui revenait d'Égypte et qui avait à peine le bac, je crois, enfin, si je me souviens bien. Donc, c'est cette capacité aussi à percevoir, sans doute de par son propre itinéraire, par les camps, des personnalités qui, effectivement, ont participé fondamentalement aussi à la vie intellectuelle en France et ailleurs.
Un commentaire, c'est un témoignage, mais c'est...
Tout à fait d'accord, cette dimension de générosité personnelle. Il aimait donner, il aimait distribuer.
Alors, le livre est donc en vente. Il ne sera pas dédicacé par Brodel, bien sûr, mais enfin, vous avez quand même le préfacier, le postfacier et le rédacteur de l'introduction et de cette édition même. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À vous deux, merci beaucoup. À vous tous, à vous toutes.